Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Queer Azure. Aujourd'hui, nous recevons Audrey. Audrey, enchantée de faire ta connaissance.
Coucou, pareil, Laurine.
On est réunis aujourd'hui à Lyon à quelques heures de ton spectacle, car oui, tu es humoriste.
Exactement.
Toutefois, j'ai entendu dire que, avant de mettre le feu à la salle, tu l'éteignais.
Oh, que c'est bien dit ça, j'adore. Attends, t'as bossé, hein.
T'as vu, on travaille la phrasée. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, en quelques mots, un peu qui tu es ?
Qui je suis ? Je suis une meuf de la montagne. J'ai été pompier pendant 10 ans, à peu près. Mm-hmm. Et je crois que je faisais déjà des blagues avant. C'était déjà un peu mon rêve et tout ça, mais j'étais vraiment dans un... Tu sais, je pense qu'il y a une sorte de déterminisme social de « Ok, bah, le chemin tout tracé, c'est celui-là. » Donc, ouais. J'étais vraiment pas du tout censée devenir humoriste, mais c'était mon rêve. Et comme j'ai fait beaucoup de ski, je me suis dit il y a peut-être un côté hors-piste qui est grave intéressant dans la liberté qu'on peut trouver dans nos vies. Et mm-hmm. du coup, je suis sortie du chemin qui était tracé de pompier. Je suis devenue humoriste comme ça en me disant « Vas-y, je pars à Paris, j'essaye. » Et voilà, je suis passée d'une lesbienne des montagnes à une lesbienne des villes. Et voilà, j'ai résumé vraiment, parce que je pourrais te parler des heures de tout ce que j'ai fait pendant que j'étais pompier, tous les tafs que j'ai fait, mais pour ça, il faut voir le spectacle, tant qu'à faire.
Ok. Ouais. Non, t'as raison de l'aborder, justement, tu disais que t'as eu le déclic en disant à un moment donné que tu aspirais à autre chose, ouais. À être humoriste. À quel moment est-ce que t'as eu ce déclic de vouloir changer de carrière ?
Ben, je pense que c'était quand même ancré en moi depuis que j'étais petite et tout. Je pense aussi que le fait que mes parents aient changé de vie, mes parents, je pense que mon père, c'est le patient zéro du burn-out, en gros. Tu sais, il a vraiment genre, c'était un mec ingénieur qui bossait en ville et tout. Et du jour au lendemain, il faisait beaucoup de montagne, etc. Et du jour au lendemain, mes parents ont pété les plombs, ils n'en pouvaient plus des bouchons et tout. Et ils m'ont embarqué, on est parti à la montagne. Et ils avaient, je pense, une quarantaine d'années. Et je me souviens dans quel état ça les a mis, ce truc de oh là là, c'est la nouvelle vie qui commence, etc. Donc je pense que ça a dû m'inspirer. Ça a peut-être donné une impulse aussi dans ma vie de. Ok, même si on était parti pour faire autre chose, et même quand on a un enfant, on peut se mettre en danger pour aller réaliser nos rêves. Je sais que mes parents, c'était leur rêve, ils ont ouvert une auberge, mon père est devenu guide en montagne, enfin un truc, rien à voir, tu vois. Okay. Cool. Et je pense que ça m'a inspirée quand j'ai commencé à comprendre un petit peu où est-ce que je me trouvais. Ça faisait 10 ans que j'étais pompier et il y avait quand même pas mal de trucs compliqués dans l'univers des casernes et tout ça. Notamment le milieu des mecs et des agressions sexuelles, on va pas se mentir. Ils sont quand même un peu réputés pour ça. Je me suis dit, vas-y, là, j'ai pas d'attache. Ouais, au moment où j'allais avoir bientôt 30 ans, j'étais en train de me séparer de ma copine de l'époque et je me suis dit, en fait, ça y est, c'est le déclic, il n'y a plus rien qui me retient. Il y a eu aussi le décès de ma grand-mère, dont je parle un petit peu dans le spectacle. Je me suis dit, en fait, il n'y a plus de culpabilité, là, il faut y aller, c'est peut-être maintenant, parce que j'ai pas envie de faire un burn-out comme mon père à 40 ans. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie.
Ok, c'est comme ça que tu as eu le déclic.
Ouais, j'ai commencé à jouer, tu vois, en tout cas à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, tu sais, il y a une sorte d'alignement des planètes. Comme quand l'univers te dit... Pardon, c'est peut-être un peu trop pour les auditoristes. Je préfère vous dire, je suis un peu une sorcière. Mais du coup, il y a eu... Tu sais, quand l'univers te sourit et qu'il te dit, vas-y, t'es sur la bonne voie. Tu vas manquer d'oseille, mais par contre, tu vas être heureuse et tu vas kiffer. Mmh. Et j'ai réussi à avoir plein de castings, à être embauchée dans une pièce, à devenir intermittente du spectacle. Et voilà, et ça s'est fait comme ça et ça a été, j'ai été bien récompensée de ma décision à ce moment-là.
Bah c'est sûr, puis comme tu dis, il y a une fluidité aussi peut-être qui s'est enchaînée naturellement.
Hein. Ouais, ouf.
Ok, mais c'est super intéressant, tu évoquais justement ta famille, ta grand-mère, tes parents.
Ouais.
T'en parles aussi, alors on va pas spoiler le spectacle, hein, parce que l'idée c'est quand même que les auditoristes puissent y assister. Hein.
J'espère que ça pourra se faire, ouais.
Mais en tout cas, tu évoques tes parents dans le spectacle, et tu évoques notamment ta maman, et son rapport justement à la queerness, au fait que sa fille soit lesbienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment ça s'est passé ? Déjà, comment s'est passé ton coming in ? Donc, comment toi, tu as finalement réalisé que tu aimais les femmes ? Et puis, est-ce que tu as fait un coming out, par exemple, vis-à-vis de tes proches ? Et si oui, comment ça s'est passé ?
Alors, en gros, je pense que moi, j'ai commencé à faire des petites phases érotomane, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai commencé à bloquer sur des gens au lycée, sur des femmes, okay. Genre ma prof d'anglais quoi. je la suivais et tout, c'est un délire. C'est vraiment, j'en suis peu fière. Il y avait aussi Jennifer de la Star Academy 1, sur qui je phasais totalement. Donc j'ai eu des petits indices, tu vois, dans mon adolescence, de mes 13 à mes 20 ans, je me posais quand même des questions. Je te dis ça aussi parce que je pense que j'ai fait un déni pendant cette période, mais quand même j'écrivais des trucs dans mon petit journal intime et j'ai retrouvé ces textes, c'est hilarant. Genre vraiment, j'ai vu la dualité, je parle d'une meuf que j'aimais trop, qui était une copine qui s'appelait Mélissa, et il y a un moment que j'avais écrit « En fait, peut-être que j'ai peut-être envie de lui rouler une pelle et, », et j'ai capté que cette phrase avait été barrée avec écrit « Burke ». Donc en fait, il y a aussi tout le rapport... je pense déjà de ma génération, parce que ben, c'était pas une génération très déconstruite, mine de rien ça a quand même beaucoup évolué ces derniers temps, et le fait d'être à la montagne aussi, tu vois, donc j'avais zéro représentation lesbienne, et du coup bah, à l'internat j'ai fait, quand j'étais au lycée, à l'internat j'ai fait un rejet de ça je pense, donc c'est arrivé quand même assez tard, c'était là parce que je me souviens que chez les pompiers, déjà moi je suis rentrée à 18 ans à la caserne, et je me rappelle que je me servais un peu de ma carte lesbienne comme d'un joker pour justement éviter les agressions sexuelles et les mecs qui t'embrassent de force. Et donc j'ai commencé à assumer un petit peu à ce moment-là. Je suis tombée amoureuse d'une copine qui était pompier, et ça m'a un peu brisé le cœur. Puis je suis partie faire une saison où là, pour le coup, je connaissais personne et j'étais dans le sud-ouest. Il y avait des gens qui étaient probablement un peu plus évolués et qui en avaient rien à foutre. Et je me suis rendu compte que bah, pour sortir avec des mecs, j'avais besoin de beaucoup d'alcool, alors pour sortir avec des filles, pas du tout. Et là, je me suis posé les bonnes questions et voilà. Et ça a été quand même assez long avant d'en parler à ma mère. Je crois que je lui ai d'abord fait un coming out de bisexuel pour qu'elle soit rassurée, parce que je savais qu'elle avait des blocages quand même. Elle avait des blocages parce que... bah, la fille dont j'étais tombée amoureuse chez les pompiers, elle m'a vraiment dit « Ah non, si tu penses que t'es Gwyn, vas-y, je veux même plus être ta pote. » Donc c'était, bon, c'était la montagne, hein. Ouais, c'était compliqué. Donc ça m'a vraiment brisé le cœur parce que je l'ai un peu perdue en tant qu'amie. Mais moi, à ce moment-là, je suis partie faire une saison ailleurs. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment beaucoup plus assumée dans ma queerness. Et elle, elle avait fait un rejet total. Donc elle avait beaucoup de psoriasis, d'eczéma. Il y avait un truc de... Et en fait, elle m'a dit « Je crois que j'ai été conne et peut-être que je t'aime. » Et à partir de ce moment-là, elle a fait une sorte de coming out, mais beaucoup plus poussé que le mien. Elle s'est rasée la tête et tout. Genre, du jour au lendemain, elle a commencé à se faire une crête et tout. Et quand ma mère voyait que cette fille et moi, on était tout le temps ensemble, bah, en fait, elle a compris. Je pense que... Donc, elle a compris avant que je fasse mon coming out réellement. Et elle m'a posé la question avec beaucoup d'inquiétude. Mais avec Anaïs, il se passe quelque chose, ou c'est, vous êtes juste amis? Et donc là, voilà, ça en est suivi une grande conversation. Par contre, aussi loin que je retourne mes souvenirs, je crois que j'ai jamais eu de confrontation avec mon père, enfin de confrontation entre guillemets, c'est un peu négatif de dire ça, mais il me semble pas lui en avoir parlé comme ça, seul à seul. Parce que mon père est quand même très pudique, hein, c'est pas quelqu'un qui parle d'émotions, etc. Donc j'avais jamais non plus parlé de mes mecs, quoi. J'en ai eu très peu, cela dit. Et donc voilà, j'en ai plutôt parlé avec ma mère, et je crois que mon père, il s'était toujours un peu douté, quoi. Donc voilà, lui, on n'a jamais parlé, il s'en fout.
Et c'était un non-sujet.
C'était un non-sujet, ouais, vraiment. À un moment donné, j'ai commencé à avoir vraiment une relation sérieuse, et là, je leur ai présenté ma meuf comme ma meuf, et ça a été un non-sujet. Par contre, ma mère, oulala, m'a dit « Non, mais comme t'es bisexuelle, tu pourras quand même... » Ça, c'était il y a quelques mois. Elle m'a dit « Mais tu tomberais pas un peu un jour amoureuse d'un garçon ?» J'ai dit « Maman, je t'avais dit que j'étais bisexuelle pour te rassurer, mais tu vois bien que je ne sors qu'avec des femmes quand même, moi, à un moment donné. Ne te voile pas la face. » Et du coup, ouais, ma mère, elle m'a fait, tu sais, toutes les maladresses. Dans mon spectacle, je dis qu'elle est homophobe parce que j'en fais une blague et que je parle du fait qu'en fait, c'est peut-être elle qui a refoulé son homosexualité, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus lesbienne que moi, ma mère. Et en fait, non, elle est pas, c'est juste que c'est quelqu'un qui a pas déconstruit grand-chose, qui a connu que mon père. C'est un couple hétéro très mignon, mais très, très classique, tu vois, qui sont toujours ensemble. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans et tout. Donc pour elle, faire un enfant avec une femme, même à l'époque, c'était, tu vois, elle m'a tout de suite dit « Mais donc, j'aurai jamais de petits-enfants », toutes ces phrases clichés, quoi.
Ouais, pour elle, c'était inconcevable, en fait, avec un certain modèle de famille.
Ouais. Et même récemment, je te dis, j'ai évoqué l'idée de, tu vois, d'avoir envie de faire un enfant. Et elle m'a dit « Ah, mais alors, tu t'es tombée amoureuse d'un garçon, t'as... c'est la lourde. Putain, tu vas jamais comprendre. » Mais bon, mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu du tout de... Enfin, je ne l'ai pas du tout subi, tu vois. Je suis leur fille unique, ils m'ont quand même vachement poussée, même s'ils sont très inquiets pour le fait que je sois... humoriste, lesbienne, fille unique, ça faisait beaucoup, je pense, à encaisser, mais bon.
Non, c'est sûr, mais c'est hyper intéressant, effectivement, ce que tu racontes sur la réception de ton orientation sexuelle par ta famille et puis la réception différenciée entre ton papa qui va pas forcément avoir de réaction,
ouais.
Donc on a une acceptation implicite,
ouais.
Et ta maman qui, malgré effectivement les preuves tangibles, bute quand même devant la réalité. Ouf.
Je sens qu'il y a au fond d'elle quand même un truc qui l'a un peu déçue. Il y a un peu quelque chose... Et donc ça prend du temps parce que j'essaie de lui expliquer, on parle beaucoup et tout, hein, j'ai une super famille, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles. C'est le concept même de la famille. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment grandi avec beaucoup de privilèges parce que mes parents sont super. Mais voilà, il y a ce petit blocage quand même de la part de ma mère. Et en revanche, dans mon spectacle, je fais une blague sur le fait que je me suis entraînée à faire mon coming out sur ma grand-mère parce qu'elle avait Alzheimer. Et c'est pas totalement vrai parce que justement, ma grand-mère commençait à être un peu zinzin et je sais qu'elle me posait la même question en permanence. Elle me demandait toujours si j'avais un petit copain et moi je voulais lui dire la vérité et ma mère m'en a empêchée. Et ça a été un peu un dos et c'est pour ça que je rends un hommage à ce coming out que j'ai fait, mais en fait sur son lit de mort à ma grand-mère. Et donc voilà, ça a été un peu le regret. Et le truc pour lequel j'en veux à ma mère de « Oh là là, mais ça va faire trop pour elle, tu vas la tuer, quoi. » Presque c'était ça, tu vois, dans son raisonnement. Ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça, ce coming out.
Wow. Non, mais c'est ultra intéressant, effectivement. C'est riche, ton expérience, elle est riche. Et ouais. Je pense que beaucoup de gens peuvent, en tout cas, soit se reconnaître, soit aussi voir à quel point il y a autant de coming out que de personnes, finalement.
C'est clair.
Et que de famille,
ouais.
Surtout.
Exactement.
Donc, et au niveau de tes amis? Du coup, donc là, tu racontais donc, cette meilleure amie, cette amie proche qui, ouais. Au début, a fait un rejet, puis finalement, non. Au niveau de tes amis, est-ce que c'était un sujet ou pas du tout?
Je sais que j'avais certaines de mes amies. Il y avait la plupart de mes potes qui étaient au courant, franchement, quand, okay. Quand j'ai assumé, c'était toute la alléluia.
Enfin. Ils savaient avant toi, quoi, presque.
Ouais, presque. En plus, vraiment, quand j'étais au lycée et que on s'amusait à suivre ma prof d'anglais et tout. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup de potes à moi qui avaient le permis avant moi, etc., qui rentraient dans des délires de « Allez, viens, je t'embarque, on va suivre la prof d'anglais en voiture. » Elles avaient compris avant moi, je pense. Je craquais sur elles. C'était une meuf hyper jeune, hyper sympa et tout. En revanche, j'avais des copines qui étaient quand même un peu bloquées sur certains sujets. Tu vois, franchement, c'est notre époque, mine de rien. Tu vois, j'ai que 38 ans, mais je me rends pas compte. T'as quel âge, toi ?
31.
Ok. Ouais. Tu vois, il y a quand même, mine de rien, dans ces 10 ans quasiment d'écart, il s'est passé plein de choses et je sais que par exemple moi j'ai certaines de mes meilleures potes, ne serait-ce que de parler de masturbation, c'était méga tabou en fait, qui ont toujours dit « Ah non, moi je peux pas me toucher, c'est dégueulasse », donc en fait deux meufs qui font l'amour, pour elles c'était genre « Wow ». Et donc je sais que je les ai aidées aussi à accepter que en fait c'est possible, mais à l'époque il y avait quand même beaucoup de clichés quoi, c'était un peu… On était à l'ancienne.
C'était un peu tabou, quoi.
Il y avait des trucs un peu tabous. Et puis, il y avait aussi le fait que... je pense que les gens qui assumaient, notamment à l'internat où j'étais, les meufs qui assumaient d'être lesbiennes, elles étaient très lesbiennes. C'était vraiment... moi, je me souviens de... Il y avait un groupe de go. Elles étaient méga... Elles étaient trop marrantes. Mais c'était vraiment un groupe de meufs bonhommes, quoi. C'était vraiment un groupe de butch. Et il y en avait deux qui étaient dans ma classe. Et je me rappelle que quand elles me faisaient la bise, j'avais l'impression, quand je suis arrivée à la caserne, j'ai retrouvé les mêmes comportements. C'est des meufs qui te font la bise au coin de la bouche.
Ah oui, d'accord.
Qui ont vraiment des comportements très masculins. Et donc, à cette époque-là, il y avait quand même un peu ce truc où certaines lesbiennes étaient presque problématiques parce qu'elles prenaient les attributs masculins pour s'assumer. Et donc... moi, je m'identifiais pas trop là-dedans non plus, donc je savais pas trop où me mettre. Et franchement, c'est vers, je pense, 21 ans que j'ai rencontré une meuf archi sympa par le biais d'une pote. Et cette fille-là venait de la montagne, elle était lesbienne. Et elle m'a amenée dans les premières soirées queer à Nice, parce qu'à Nice aussi, c'est pas non plus la ville la plus open. Mais donc, je suis rentrée dans le milieu vers 21 ans et là j'ai compris ce que c'était, en fait, que d'être queer. Et là, je me suis identifiée et c'est comme ça que j'ai beaucoup plus assumé et que j'ai compris aussi ce que c'était le féminisme, la sororité, traîner avec des meufs, des meufs plus âgées en plus, qui me faisaient comprendre plein de choses et qui avaient vécu encore plus l'homophobie que ma génération, tu vois. Mm-hmm. Qui avaient vraiment vécu les trucs compliqués de ces des meufs qui sont nées en 1976, quoi. Donc quand même, des meufs qui se faisaient cracher dessus ou qui ont été bullies à l'école, voilà, quoi. Donc avec mes potes, ça s'est fait comme ça. J'avais mon petit groupe de potes hétéros un peu à l'ancienne, puis après, j'ai rapidement eu mes premières potes lesbiennes Et après, j'ai réussi à réunir ces deux mondes, la montagne, le, tu vois, la vie parisienne et machin. Et c'est ça que je trouve cool, en fait. C'est ça que je trouve même nécessaire dans l'humour, tu vois, et que j'essaye de faire dans mon spectacle. C'est de parler de mon expérience. J'essaye d'englober tout le monde. Et puis, le fait de parler de moi, je sais qu'il y a des choses qui vont toucher certaines personnes, mais aussi d'autres. Le fait de parler de ma mère en tant qu'homophobe, ça va peut-être raccrocher un peu plus les vieux. Parce que je vois que ça peut marcher, même quand je joue dans des bleds paumés, tu vois, il y a des endroits où tu vas jouer, t'as que des vieux dans la salle, tu te dis voilà, comment ils vont prendre le sujet, et tu sens que t'es pas la personne qui fait le plus rire, mais tu les as quand même fait un peu réfléchir, et t'as réussi à les accrocher sur 2-3 trucs. C'est cool de se servir de son parcours pour ça, tu vois, parce que moi je viens d'un endroit qui est pas spécialement ouvert à la base, quoi. Quand même plus de chasseurs que de lesbiennes. Mais dernièrement, il y a une gay pride qui a été organisée dans mon village, quoi.
Oh, donc c'est quoi le nom de ton village ?
Le nom de mon village, c'est Val-de-Blore.
Et c'est à côté de...
C'est à 1h30 de Nice,
okay.
En gros. Dans les montagnes, c'est vraiment montagne, quoi. C'est dans une station de ski à 1500 mètres d'altitude.
Ok.
C'est très mignon. C'est dans les Alpes-Maritimes, dans un parc national qui s'appelle le Mercantour. S'il y a des randonneuses qui nous écoutent, franchement, c'est trop bien comme endroit.
Et première gay pride organisée, alors donc c'est super, il y a du progrès, c'est ça aussi.
Il y a du progrès, ouais, carrément, ouais.
Ok, ben ça c'est hyper intéressant justement, tu parlais un tout petit peu plus tôt du rapport entre ton spectacle, le fait que du coup ça englobe un peu tout le monde, que ça peut parler à tout le monde.
Ouais, j'essaye.
Justement, tu parles assez rapidement du fait d'être lesbienne et de la queerness de manière générale.
Ouais.
Et du coup, ma question, c'est la suivante. Penses-tu que l'art, de manière générale, a un rôle à jouer dans la défense de la cause LGBTQIA+ ?
Ouais, carrément.
Et plus particulièrement, toi, est-ce que tu penses que l'humour peut y contribuer et comment ?
Ah ouais, bien sûr. C'est une super question, ça, d'ailleurs. Moi, je pense que... l'humour là a vraiment évolué avec la société. Je pense que mon humour aussi a évolué avec tu vois, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Ouais. Moi, je fais aussi beaucoup d'absurdes. Par exemple, je peux très bien mimer un chamois sous psychotrope, comme faire des textes beaucoup plus engagés qui parlent de moi plus intimement. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire là de réécrire pas mal de trucs. Et d'ailleurs, je suis sur la fin d'exploitation de ce spectacle parce que j'ai envie de m'engager beaucoup plus. Parce que justement, je trouve que philosophiquement, en fait, il y a un engagement qui est hyper nécessaire aujourd'hui. Déjà, dans le fait d'être une femme sur scène, c'est énorme en fait. Donc, on porte quand même, mine de rien, une responsabilité. Et on porte aussi des années d'histoire où, il n'y a pas si longtemps, les femmes, elles n'avaient même pas le droit de rire, tu vois, sinon c'était des putes, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, mine de rien, c'est chargé de tout ça. Le fait d'être une femme sur scène, c'est énormément d'histoires contre un bal. Le fait d'être une lesbienne qui, tu vois, le fait d'être une femme qui dit je suis lesbienne sur scène, c'est déjà quelque chose. Mmh. Et le fait d'être. Tu vois, d'être une meuf de la montagne qui se retrouve parfois avec, dans sa salle, une moitié de vieux monsieur qui vont peut-être à la chasse et une autre moitié de personnes, tu vois, racisées ou avec les cheveux rasés sur les côtés. Mais en fait, ça me régale de voir que pendant un court instant, l'humour, quand il n'est pas fait sur les réseaux, quand il est fait en vrai, il va toucher tout le monde et une blague peut vraiment faire rire toute une salle de gens extrêmement différents avec des parcours diamétralement opposés. Mm-hmm. Et ça, c'est trop beau, en fait, de te dire, là, pendant une heure, on vient tous de rire aux mêmes blagues. Et il y a autant des militaires, des pompiers qui viennent voir mon spectacle que des infirmières, des lesbiennes, tu vois. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment beau. Il n'y a pas très longtemps, j'ai posté une chronique que j'avais fait sur France Inter. Et il y a un de mes anciens adjudants-chef, quand j'avais été militaire, qui m'a envoyé un message en privé. En me disant bravo, t'as beaucoup de talent, machin. Donc il m'a connu quand j'étais militaire et il m'a dit par contre, je comprends pas pourquoi t'as toujours besoin de dire que t'es lesbienne. Je trouve ça clivant parce que nous, les gens normaux, on se sent exclus. Alors bon, outre le fait que c'est très homophobe de dire ça, j'avais envie de lui dire en fait, quand je monte sur scène, moi je fais pas de l'actu, même si bien sûr je rattache mon expérience à ce qui se passe dans l'actu, etc. Mais je fais pas de l'actu, je parle de mon vécu, de mon parcours. Je trouve pas ça clivant de dire que je suis lesbienne, pas plus clivant que de dire que je viens de la montagne. Quand je joue à Paris, les Parisiens s'offusquent pas, que je dise bah moi je suis montagnarde, oh bah non, alors ça, on se sent exclu, on se casse, nous les citadins, on aime pas ça. Et donc je me dis que tant qu'il y aura encore ce genre de pensée, ben ouais, ce sera nécessaire de dire en fait je suis lesbienne, c'est pas tout le propos du spectacle d'ailleurs, tu vois, il y a énormément de choses que je raconte, Mais en revanche, bah, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis. Et il y a encore des gens dans le monde qui ne peuvent pas le dire. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Donc bah, moi, je rends hommage aussi à toutes les personnes qui sont battues pour qu'on ait le droit de le faire, en fait. Et voilà, tant qu'on recevra des messages de nous, les gens normaux, ouin ouin, et ben du coup, vous, les gens normaux, remettez-vous en question, parce qu'en fait, c'est pas du tout clivant. Au contraire, on fait quelque chose d'hyper inclusif, quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment nécessaire.
C'est vraiment nécessaire. Et puis, tu disais, ça réunit des gens qui ont potentiellement peut-être des opinions différentes. Ça peut aussi peut-être ouvrir l'esprit à certains qui n'ont pas conscience que peut-être ils tiennent parfois des propos homophobes en pensant que ce n'est pas nécessairement homophobe.
Ouais, exactement. Exactement. Je sais que il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts que dans d'autres endroits, dans mon village, parce que je pense que j'ai fait un gros travail, entre guillemets, étant donné que quand j'ai commencé l'humour, j'ai fait un festival dans mon village avec mon ex qui était musicienne. Donc on avait fait grosse partie stand-up en première partie, ensuite des gros concerts, un DJ set et tout, c'était vraiment très cool. Et on a fait beaucoup de monde, et je sais que, mine de rien, moi j'avais fait en sorte qu'il y ait la parité pour la partie stand-up, ce qui était difficile à l'époque, c'était en 2017, il n'y avait pas beaucoup de meufs à Nice, parce que les meufs ne jouaient pas dans les comédie clubs, il n'y avait pas de comédie club. Et j'avais fait en sorte qu'il y ait des personnes racisées, et c'était important parce qu'à la fin, j'ai vu des gens de mon village qui sont quand même très racistes de base, qui parlaient avec mes potes arabes, noirs, qui venaient de monter sur scène et qui tapaient des barres ensemble. Ça m'a fait trop de bien et j'ai même senti l'évolution dans leur mentalité pendant les quelques années après le Covid où j'ai organisé des plateaux de stand-up à la montagne. Ben, ça a vraiment réuni des gens qui sont à la base un peu bas de plafond et un peu, tu vois, qui regardent un peu trop la télé et qui n'ont pas un très bon algorithme. Ben, ça leur a fait du bien parce que je pense que ce qui nous divise le plus, c'est l'inconnu, tu vois. C'est parce que je me rends compte que quand même, là où les gens sont plus racistes, c'est là où il y a le moins de noirs et d'arabes, tu vois, quand même, mine de rien, tu vois, la montagne et tout. Donc tu te dis, ben, en fait, on va ramener ces gens-là et on va parler ensemble, comme ça au moins... Donc effectivement, plus il y aura de discours comme ça, et plus les gens entendront ce genre de discours sans se sentir exclus, et mieux ce sera, quoi. Et la scène, pour ça, je trouve que ben, c'est vraiment ce qui rassemble le plus. Et l'humour, surtout. Moi, je pense que franchement, les stand-uppers et les stand-uppeuses, on est l'avenir, là. Pour pas qu'on pète tous les plombs, il faut qu'on se tape des barres ensemble, hein.
Ah bah, l'humour, c'est un des vecteurs les plus simples aussi, parce que les gens veulent juste passer un bon moment, donc... Mmh. Voilà, c'est pas des discours grandiloquents, c'est vraiment essayer de réunir sur des...
C'est frontal, c'est direct, le stand-up, c'est hyper...
chaleureux.
C'est chaleureux, et puis c'est aussi un peu viscéral. Il y a quelque chose de... Parfois, t'as des humoristes qui peuvent vraiment te toucher. T'as des rires qui sortent des tripes, parce que, tu vois, une Blanche Gardin qui te raconte des atrocités et tout, en fait, bah, wow, t'es obligé d'être connecté à cette personne, parce qu'elle elle te parle avec ses tripes. Donc, je pense même que c'est... C'est encore plus, déjà, c'est plus difficile que de faire pleurer les gens, faire rire. Donc, en tant qu'humoriste, on travaille vraiment fort, fort pour avoir cette efficacité, pour aller se connecter avec toutes sortes de publics. Mm-hmm. Et une fois qu'on arrive à faire ça, mais c'est tellement précieux, en fait, parce que c'est le chemin le plus direct, quoi. On est seul avec un micro et on est tout nu. Donc normalement, c'est quand même très touchant. Je pense que normalement, n'importe quel être humain est censé être pour personne. J'ai rarement entendu des gens dire, moi, de toute façon, moi, j'aime pas rire. C'est pas mon délire. Donc voilà. Pardon, je parle trop. Hein.
Non, tu parles pas trop. Moi, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est hyper intéressant. Mais justement, déjà, merci pour ces détails sur le lien entre art et la cause LGBTQIA+, parce que c'est hyper important et je pense qu'on gagne à l'aborder d'autant plus et encore plus sous le prisme de l'humour.
C'est clair.
C'est pas tous les jours qu'on en parle. Mais du coup, on a parlé de Audrey l'humoriste. Ouais. Moi, j'aimerais un peu parler de Audrey, la personne, la femme que tu es. Dans un épisode de podcast récent que tu as tourné avec Mathilde Abbassi, tu évoquais ta démarche solo de PMA. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais revenir avec nous sur ce désir d'être maman solo, comment est-ce qu'il est né, et comment ça se passe aujourd'hui concrètement quand on veut devenir maman solo en France et qu'on est lesbienne.
Oh là là, on pourrait faire une heure là, va falloir que tu me coupes.
Non, vas-y.
Écoute, pour essayer de résumer, en gros, bon, maintenant vous connaissez un peu l'histoire de mon père, ma mère, voilà, le petit couple hétéro magnifique, tu vois, vraiment la famille parfaite, qui sont ensemble et qui se sont jamais trompés. Pour moi, élever un enfant, j'ai dû faire beaucoup de travail de déconstruction avec moi-même, parce que pour moi ça se fait à deux, et le fait que ma mère me dise mais si t'es lesbienne je serai jamais grand-mère, etc., ça, mine de rien, ça a eu un impact. Et pendant longtemps j'ai même envisagé d'être maman. Ça a toujours été ça a toujours fait partie de moi, et je me suis toujours projetée en tant que maman. Je me suis toujours dit attends, j'ai été trop bien élevée et on m'a donné tellement d'amour, j'ai envie de pouvoir donner ça moi aussi. Mmh. Je trouve ça trop beau, la transmission qu'il y a eu de ma grand-mère à moi, de ma mère à moi, de mon père. Et j'ai vraiment envie de, voilà, d'expérimenter ça depuis longtemps. Sauf qu'à un moment donné, ça a commencé à me prendre, à prendre vraiment de la place, parce que j'ai décidé d'être humoriste à 29 ans et que bah, du coup, je me suis dit, ok, c'est maintenant que j'essaye de changer de vie parce que justement, je ne suis pas engagée dans une relation et que je n'ai pas de responsabilité de maman. Donc, c'est plus facile de le faire là. Mais je venais de quitter un peu la femme de ma vie, de l'époque en tout cas, de ce que je pensais, mon premier amour. Et j'ai commencé à bugger là-dessus et à me dire peut-être qu'en fait, il faut le faire avec mon meilleur ami. Peut-être que j'avais aussi beaucoup de mes amies lesbiennes qui envisageaient la coparentalité. Mm-hmm. J'en ai d'autres qui sont parties en Espagne parce que voilà, on ne pouvait pas le faire en France et tout. Et j'en ai écrit une pièce avec une amie humoriste qui s'appelle Cécile Marx. Et c'est une comédie, on joue deux lesbiennes en couple qui veulent trouver un donneur et on fait passer un casting, mais pour le faire en pirate, parce que du coup c'est interdit en France. Donc c'est une pièce qui était déjà engagée pour l'époque, on l'a écrite en 2018-2019. Et on l'a pas mal joué, puis il y a eu le Covid et après voilà. Mais avec cette pièce, en fait, voilà, je soulevais déjà toutes ces questions de est-ce qu'on le fait de notre côté ? Est-ce qu'un enfant, ça peut marcher avec une grosse dépense d'argent ? Parce que moi, j'avais un blocage avec ça, vu que j'ai vu mes amis qui ont dépensé quand même pas mal de thunes pour aller en Espagne ou en Belgique. Et donc voilà, on abordait énormément de sujets dans cette pièce, et notamment j'ai une de mes amies qui a eu de l'endométriose et je me suis dit bon bah ça il faut en parler aussi, et c'est là que j'ai découvert que j'en avais de l'endométriose. Et donc à partir de là, nouvel enchaînement de il faut que je congèle mes ovocytes, j'ai le droit de le faire alors que c'est encore interdit en France pour les lesbiennes et les femmes seules, donc je me retrouve à être la seule femme seule dans le service PMA de Nice. Bon, ça, j'en parlerai dans le prochain spectacle. Je suis en train d'écrire un truc là-dessus sur le fait que j'ai inventé un mensonge parce que j'ai cru que qu'il fallait que je sois sous couverture, étant donné que la dame de l'accueil, la secrétaire médicale, m'a dit « Monsieur n'a pas pu venir ». Voilà, comme si tout était très hétéronormé à l'époque. Mm-hmm. Et le fait de congeler mes ovocytes, ça a mis une sorte d'horloge dans ma tête de « Ok, ben, en fait, je ne peux pas trop traîner. » On m'a dit « À partir de 35 ans, c'est une grossesse gériatrique, ce genre de truc à la con. » Et du coup, il y a un truc qui s'est accéléré. Moi, je n'arrivais pas à me remettre de ma rupture avec mon ex et j'étais seule. J'ai toujours un peu attendu de faire la nouvelle rencontre qui m'amènerait vers « Ok, là, j'ai vraiment envie de construire quelque chose et une famille avec cette personne. » Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une fille avec qui ça a duré 2 ans, qui était plus jeune que moi et qui était très à fond. Sauf que ben, ça a été compliqué comme histoire. Et ça s'est pas très bien terminé. On avait abordé le sujet de la maternité, parce que moi, je commençais à l'envisager seule. Le fait que la PMA devienne autorisée en France et tout, je me suis dit, faut peut-être l'envisager autrement. Tu vois, j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai lu plein de livres sur faire famille autrement, etc. Et en fait, j'ai beaucoup parlé de maternité avec mon ex, sauf qu'elle était un peu intense. C'est quand même un peu toxique de dire ça, mais elle était un peu intense et elle a pris un rendez-vous PMA pour nous deux, mais sans me prévenir. Et du coup, bah, j'ai reçu un mail qui confirmait ce rendez-vous PMA 1 an après notre rupture. Et du coup, entre le moment où on s'est séparés et le moment où j'ai reçu ce mail, c'est vraiment la période où je me suis rendu compte que plutôt que de faire un enfant à deux avec quelqu'un avec qui c'est peut-être dangereux et où ça pourrait pas très bien se finir, et le faire seul, ben, qu'il valait mieux le faire seul. Et à ce moment-là, ben, c'est encore une fois une sorte d'alignement de l'univers qui t'envoie plein de signes de « tu n'as pas tort, regarde, là, regarde telle personne qui a fait un enfant avec ce garçon qui maintenant lui tape dessus, ou telle personne qui se retrouve du coup à partager une garde alors qu'elle aimerait pouvoir déménager, emmener sa fille ailleurs alors que le père est hyper problématique. » J'ai eu plein de schémas comme ça d'amis à moi qui m'ont raconté leurs histoires, et là je me suis dit « mais en fait, déjà que t'es contrôle fric, en plus t'as du mal à t'engager, et dernièrement ça s'est pas bien passé sur la dernière relation, ouais. Tu reçois ce mail au même moment, je te jure, meuf, je me suis dit « c'est un signe de l'univers, il faut que j'aille à ce rendez-vous PMA, j'y vais seule, c'est sûr, c'est ça quoi. » Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pensais être terrifiée. Je me suis dit, j'y vais pour poser des questions. Et puis parce qu'on ne peut pas se permettre de rater un rendez-vous PMA, ça met un an pour en avoir un, tu vois, c'est fou, quoi.
Mais quand même, ben déjà ouais. Que tu ne l'avais pas demandé.
Voilà, ouais, c'est incroyable, tu vois. Et puis ça m'a vraiment amusée aussi. Que ça me tombe dessus, j'ai eu un peu la sensation de, oh cool, j'ai tellement sacralisé ce truc de faire un bébé, j'ai tellement réfléchi depuis 2015 sur mode, et alors si je demandais à lui d'être mon donneur, et lui, et machin. Là, c'était un peu une sorte de surprise, comme ce qui pourrait arriver finalement dans... Tu vois, oups, oh bah, j'ai fait une erreur de pilule et puis bah, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde ? Voilà, je me suis dit, en fait, c'est... Vas-y, il y a un truc un peu marrant, un peu fou. j'avais envie de raconter l'histoire, j'avais envie de... Vraiment, je me suis dit, il faut le documenter, il faut en faire des vidéos, c'est trop marrant comme histoire. Et donc, ça a remis de la légèreté dans mon désir de maternité, alors que bah, je le trouvais un peu dur et je me disais, bon, en plus, t'es humoriste, ta carrière, elle passe avant tout. Tu vois, il y a quelque chose d'angoissant, en fait, dans l'idée d'être maman. Et là, soudainement, ça s'est vachement allégé. Le fait d'en parler avec les médecins... Les gynécos de l'hôpital où j'ai été, elles ont été super. Et du coup, je me suis dit, ben, let's go, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore fait ma première insémination, bien sûr. Et surtout, entre-temps, je me suis mis en couple avec quelqu'un. Et du coup, ben...
C'est super beau.
C'est super beau.
C'est encore plus aligné, tu vois.
Ouais, finalement. Mais entre-temps, j'ai quand même démarré ce process. Ouais. Et ça, en France, je sais pas comment ça se passe en Belgique et tout. Vous êtes quand même un peu plus en avance que nous. Ouais. Mais... En France, si tu démarres ton parcours PMA seul, tu peux pas inclure quelqu'un à un moment donné. Et en même temps, là, ça fait pas longtemps que je suis avec la personne avec qui je suis en couple. Et je peux pas dire aussi rapidement, genre, oui, bien sûr, tous les signaux sont au vert, allons-y, quoi. On n'est pas hétéro, en fait, on n'est pas zinzin. On n'est pas fou, c'est pas n'importe quoi, nous. Donc voilà, ça me fait un peu temporiser, réfléchir. Mais en tout cas, je l'envisage réellement, là, de faire un bébé toute seule, quoi.
C'est une aventure qui est en cours.
C'est une aventure qui est en cours et qui prend pas forcément tant de temps une fois que tu as eu ton rendez-vous, ton premier rendez-vous PMA. Donc ça peut être 6 mois, 8 mois, il y a pas mal de dons de paillettes à Paris et du coup bah, c'est super, on en profite. Hein. S'il y a des donneurs potentiels qui nous écoutent, allez-y, hein, parce qu'il y a quand même plein de gens qui, plein de personnes qui galèrent et tout. Je me dis, c'est bien de faire des enfants, mais c'est bien de faire des parents aussi.
Mmh, exactement. Et justement, tu parlais du délai pour obtenir un rendez-vous PMA. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui peut-être ont un désir d'enfant, soit à deux, soit solo, ouais. Qui peut-être se freinent en raison peut-être des démarches administratives ou du délai. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui peut-être sont un peu effrayées à l'idée d'entamer la démarche qui a l'air complexe comme ça ? Est-ce qu'elle est si complexe que ça ?
Alors, j'ai raté le premier rendez-vous, enfin la prise de rendez-vous, puisque du coup, c'est mon ex qui l'a faite. Mais je crois que c'était un mail ou une inscription. Hein. C'est vraiment, okay. Au niveau administratif, moi, je peux avoir une petite phobie parfois. C'est quand même une fois que tu as eu ton premier rendez-vous. Alors, il y a un peu d'attente, mais j'ai l'impression que c'est pas très compliqué de s'inscrire pour avoir ce premier rendez-vous. Après, c'est quand même gratuit et on est très bien accompagné. Et il y a quand même, j'imagine, un taux de réussite. Je l'ai pas, hein, je connais pas le pourcentage, mais c'est-à-dire que c'est quand même une façon extrêmement efficace, bien encadrée d'avoir un bébé. Donc, comparé à ce que c'est comme engagement en termes d'administratif ou de prise de rendez-vous, je pense qu'il y a trois rendez-vous principaux. Un pour évaluer le nombre de follicules que tu as pour savoir si tu es encore très féconde ou pas. Et un rendez-vous psy qui, selon moi, était un peu stressant parce que j'avais peur que ça soit quelqu'un qui évalue ta capacité à être mère. Et je me suis dit, ouais, ça serait hyper gênant parce qu'on fait pas ça avec les hétéros alors qu'on devrait parfois. Et là, j'ai une amie qui vient d'aller à son rendez-vous psy parce qu'on a eu un rendez-vous quasiment en même temps pour démarrer la PMA. Bon, elles sont deux. Et du coup, ma pote m'a dit, en fait, le rendez-vous psy, c'est génial. En fait, c'est une personne qui est là pour répondre à toutes tes questions. Absolument pas pour juger ton état psychologique ou savoir si tu vas être une bonne mère. En fait, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui est là pour te rassurer s'il y a quoi que ce soit. Donc en fait, c'est presque mieux de faire un enfant comme ça. C'est beaucoup plus sain, j'ai l'impression. Et je l'ai déjà dit dans le podcast de Mathilde Abassi, que j'embrasse. Et je trouve qu'en fait, il y a une prise de conscience de la part des couples queer qui est quand même nécessaire, d'autant plus aujourd'hui, tu vois, avec toutes les choses qu'on a compris sur l'enfance et sur les problèmes qu'il y a eu dans les générations passées. Moi, je pense que les personnes queer vont être des parents extraordinaires. Donc, en fait, si vous pouvez le faire, n'ayez pas peur, pitié, faites-le. Il faut qu'il y en ait le plus possible, quoi. Foncez.
Je pense que c'est un très beau mot de la fin.
Écoute, moi, j'espère.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, Audrey. Alors,
avec
pour
plaisir.
Information, Audrey, elle est en tournée avec son spectacle, donc Hors-Piste.
Hors-Piste, enfin, ouais.
Un peu plus tôt. À la Nouvelle Scène, notamment, par exemple, à Paris, tous les samedis soirs jusqu'au 20 juin.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, on ne peut que vous inviter à aller la voir jouer sur scène si vous voulez une bonne dose de rire et de bonne humeur. Merci beaucoup, Audrey.
Merci à toi.